168,45 € ne nous est pas encore parvenu. Sans nouvelles de votre part avant le 17-11-2003, nous serions malheureusement dans l'obligation de limiter très fortement nos fournitures ou de les suspendre.
Je vous rappelle que le locataire de votre part.
Bonsoir, vous écoutez Jeudi Noir sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. Et donc, vous venez d'entendre un morceau de Stupéflip, choisi par José depuis son antre stéphanoise. Et un morceau qui s'intitule Argent. Pour une raison très simple, c'est que comme toujours, José est à la pointe de la pertinence, si j'ose dire. Et que ce soir, Morane va nous parler d'un sujet que ni Jean-Mathias ni moi ne maîtrisons le moins du monde, c'est-à-dire d'économie. C'est-à-dire un truc qui est entre le chamanisme et la domination impérialiste. Et entre les deux. Et à partir d'un livre de Stéphanie Kelton, qui est une professeure d'économie et de politique publique à l'université de Stony Brook, et qui est une éminente figure de la théorie monétaire moderne, que va nous expliquer Morane, parce que évidemment pour moi ça ne signifie rien. Et donc Stéphanie Kelton qui a écrit un livre qui s'intitule Le mythe du déficit, sous-titré La théorie moderne de la monnaie et la naissance de l'économie du peuple. Ça a été publié en anglais ou en américain en 2020 et publié en français en 2022 aux éditions Les Liens qui Libèrent. Donc on avait déjà présenté dans ces éditions-là les bouquins de Graeber il y a maintenant pas mal d'années. Et donc tu vas nous expliquer en quoi, en quelque sorte, le déficit dont les politiques actuelles nous rabattent les oreilles toujours, c'est-à-dire il faut éviter le déficit, il y a un déficit, il va falloir payer, il va falloir serrer la ceinture parce que on s'est endetté, il faut diriger le pays comme un bon père de famille.
Oui, les retraites, les pensions.
Voilà, tous ces trucs-là, tu nous expliquais pourquoi, d'après Stéphanie Kelton, c'est quand même très très contestable.
Merci. Effectivement, donc le titre, le mythe du déficit, pose en fait certains postulats de base. Et là, ce que veut montrer Stéphanie Kelton et ce que montre plus généralement ce qu'on appelle la théorie monétaire moderne, la TMM, c'est que cette idée du déficit et en fait plus largement de la dette est vraiment l'aiguillon qui dirige nos politiques économiques et on fait tous les choix économiques, donc sociaux, etc., en fonction de la question de ce déficit et de la dette qu'il peut occasionner. Alors, bon, peut-être pour rappeler, elle parle du déficit public, en fait.
D'accord.
Donc, on est en déficit public quand la dette d'un État est supérieure... les dépenses d'un État sont supérieures à ses recettes, en fait, tout simplement. Ce qui est un mythe, c'est pas tant, évidemment, l'existence des déficits qui, là, sont incontestables, mais ce qui est un mythe, c'est que le déficit est une variable économique qui serait complètement contraignante et une nécessité à prendre en compte, en fait, dans l'orientation de nos choix économiques et politiques. Voilà. Pour recontextualiser un petit peu... la façon dont est perçu le déficit, effectivement, c'est un peu une ancienne, quelque chose qu'on entend en permanence sur les plateaux télé, dans tous les journaux, économiques ou pas. Et effectivement, Stéphanie Kelton commence par nous dire que c'est quelque chose qui est l'inquiétude du déficit et de la dette surtout, en fait, c'est quelque chose qui est largement partagé quels que soient les camps entre guillemets économiques, chez les progressistes comme chez les conservateurs. Alors elle parle essentiellement des États-Unis dans son livre, donc chez les démocrates comme chez les républicains, la question du déficit est une question qui est centrale.
C'est-à-dire qu'en gros ils ont la même théorie économique.
Non.
Non,
ils n'ont pas la même théorie économique, ils ont la même pierre angulaire, le déficit est important.
Et le déficit est mauvais.
D'accord. Parce que justement, on a tout ce qui est Keynes, etc., où on va en reparler, mais où le déficit peut être un outil utile, mais qui doit à terme, plus ou moins long là, être résorbé. Donc c'est un problème, voilà, c'est un problème le déficit. La théorie moderne, ce qui est un peu copernicien dans ce qu'elle fait, c'est justement de dire que en fait, le déficit, c'est pas un problème.
Donc copernicien, c'est renverser la perspective, c'est-à-dire on ne tourne plus autour de la Terre, on tourne autour du Soleil.
Ouais.
Et donc voilà, en gros, globalement là pour l'instant, on tourne autour du déficit et la théorie moderne nous dit tourner autour d'autre chose.
Oui, c'est une théorie qui opère un renversement des conceptions économiques. On, on va le voir. Mais voilà, au moins c'est ça. Et donc, dans le jargon économiste, on oppose les faucons et les colombes, en fait, pour aller très vite.
Ah, aussi en économie, d'accord.
Aussi en économie. Les faucons sont, alors, les économistes, mais plus globalement ceux qui y croient aussi, au fait que le déficit est nécessairement mauvais. Et tout déficit doit être minime et supprimé le plus vite possible. Voilà. Donc ça, ce sont les faucons. Et les colombes, donc plutôt le camp des keynésiens, peut-être éventuellement progressistes, plutôt démocrates, si on se place dans une perspective américaine, seraient ceux qui pensent que, non, le déficit peut être un outil utile pour relancer la croissance et l'économie. Mmh. Et à terme, il sera résorbé par un taux de croissance suffisamment élevé pour renflouer les caisses de l'État.
Donc, ça, c'est du keynésianisme classique.
C'est du keynésianisme classique. Pour aller assez vite, c'est ça. Mais dans les deux cas...
On précise Keynes, économiste...
Oui, je vais en reparler peut-être un petit peu après.
Anglais, mais, du début du XXe siècle, voilà, première moitié du XXe siècle.
Qui a inspiré toutes les politiques économiques de relance d'après-guerre, qui se base sur une relance de la consommation, donc sur des dépenses importantes des États dans les infrastructures.
Voilà, tous les grands travaux.
Les grands travaux, mais aussi les aides sociales, etc. Tout ça, c'est des politiques keynésiennes à partir du moment où l'État dépense pour relancer la demande, la consommation, l'investissement des entreprises.
Voilà.
Voilà, donc en fait, on a deux camps un peu opposé sur comment résorber le déficit, mais la question se pose toujours de comment résorber le déficit. Kelton nous dit, ça c'est pas une question qui est importante au fond. Alors, les colombes qui sont plutôt progressistes nous diront, voilà, en fait, pour résorber le déficit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut taxer les riches. Il faut taxer les riches essentiellement, ou alors dépenser de l'argent pour engendrer de la croissance. Ceux qui sont plutôt faucons, qu'on retrouve dans la théorie monétariste, un peu, c'est-à-dire ceux qui pensent en fait que le déficit est tout le temps et nécessairement mauvais. Voilà. Bah, eux nous diront, en fait, pour résorber le déficit, il faut pas trop dépenser, tout simplement réduire les dépenses, voire augmenter les ressources pour l'État, donc les impôts aussi. Donc voilà, en fait, ce qui distingue un peu ces deux camps là, auxquels va s'opposer Stéphanie Kelton, c'est quelles sont les solutions pour résoudre le déficit et quel est le degré d'utilité finalement du déficit. Pour certains, c'est des utiles, et pour d'autres, nuisible, et pour d'autres, ça va effectivement permettre de relancer l'économie, et à terme, il va se résorber. Donc voilà, la question de la dangerosité du déficit et en fait plus précisément de la dette. En réalité, ce livre tourne autour de la dette essentiellement.
La dette de l'État.
La dette publique en fait. Enfin, de l'État et des organismes publics, donc par exemple la sécurité sociale.
D'accord. Voilà.
C'est une rhétorique qu'on retrouve depuis les années essentiellement 70, en fait, présente constamment que le déficit, la dette sont mauvais. C'est ce qu'on retrouve chez Thatcher, chez Reagan. Thatcher, comme Emmanuel Macron, il n'y a pas si longtemps que ça, parlait d'argent magique en disant qu'il n'existait pas. Reagan, pareil. Et on retrouve toujours derrière cette idée d'avoir une gestion responsable, comme tu disais tout à l'heure, du budget de l'État en bon père de famille. Il faut gérer le budget de l'État comme on gère un ménage, enfin le budget d'un ménage. Donc, on ne dépense pas ce qu'on n'a pas. Voilà.
Et ça vient d'où? Ça vient de la société du Mont Pèlerin, d'Hayek, des néoclassiques, des gens
alors,
comme ça.
Alors, d'où ça vient de plusieurs. Alors, il y a deux questions en fait. C'est d'où ça vient à l'origine. Enfin, d'où ça peut venir et pourquoi c'est si répandu en fait. À l'origine, ça vient. Enfin, on pourrait dire que ça a toujours existé, mais l'expansion comme ça, c'est venu de la mort du keynésianisme. En gros, pour aller vite, Keynes, c'était les politiques de relance de la demande très généreuse de l'État après guerre. Donc Roosevelt, par exemple, aux États-Unis, etc., avec sa loi sur la sécurité sociale, le plan Marshall, par exemple, etc., qui avait pour objectif d'injecter de l'argent dans l'économie pour que les ménages consomment et pour que les entreprises investissent. En gros, relancer le moteur de l'économie. Bon, le keynésianisme, ça a très très bien fonctionné. Ça a inspiré toutes les politiques des États-Unis, mais aussi de l'Europe après-guerre. Puis, dans les années 70, les chocs pétroliers. Donc 73-79, et c'est à partir de ce moment-là que la pensée keynésienne a été remise en cause très largement, d'abord par les politiques publiques, par les conseillers des politiciens aussi, et puis évidemment par la population ensuite. Donc il y avait, en fait avec Keynes, il y avait l'idée que Le déficit, c'est pas grave tant qu'il permet la croissance, en gros, parce que si l'État s'endette, il y a des revenus qui vont être distribués, par exemple l'État construit une route, eh bien, pour construire cette route, l'État va embaucher des entreprises qui elles-mêmes vont embaucher des travailleurs, donc les entreprises vont avoir des revenus, les travailleurs également, tout ça, ça va favoriser la consommation, les dépenses, et pour aller vite relancer l'économie. À terme, ça permettra à l'État de revenir sur son investissement avec la fiscalité, en prélevant des taxes, etc., et donc de renflouer le déficit, tout en ayant relancé la croissance. Ça, c'est en gros le keynésianisme. Et donc, en fait, pour les keynésiens, on pouvait relancer l'économie, donc notamment diminuer le chômage, au prix d'une inflation. Parce que quand on augmente les dépenses dans une économie, nécessairement, les prix ont tendance à augmenter. Voilà. Bon, c'est la loi de l'offre et la demande. Ouais. Et donc, il y avait l'idée, jusque dans les années 70, qu'on pouvait choisir, en tout cas arbitrer, entre un niveau de chômage et un niveau d'inflation. Si on voulait réduire le chômage, le prix, c'était la hausse de l'inflation. Si on voulait réduire l'inflation, le prix, c'était la hausse du chômage. Et ça marchait très bien. Dans les années 70, choc pétrolier, il se passe quelque chose qui est qu'on a et du chômage et de l'inflation en même temps. Donc là, le keynésianisme ne marche plus. On a fait des politiques, comme on savait faire, de relance de la demande. Tout ce que ça a fait, c'est augmenter les prix sans diminuer le chômage. Bon. Donc voilà, il y a un contexte économique qui a fait que la pensée keynésienne, comme ça, et la perception optimiste un peu du déficit et de la dette ont été rejetées et ont fait la place à d'autres théories économiques.
Okay. C'est parce qu'avant la crise, avant les chocs pétroliers, l'énergie, en fait, on l'achetait à bas prix.
Oui, et en fait, plus globalement, pourquoi Keynes, les théories keynésiennes n'ont plus marché, c'est parce que avant les années 70, ce qui posait problème, c'était une insuffisance de la production, pour aller vite. D'accord. On produisait pas assez, oui. Parce qu'on demandait pas assez. En fait, pourquoi les entreprises produisaient pas? Parce qu'il y avait pas assez de demande. Voilà. Donc voilà. Et après les chocs pétroliers, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, l'inflation était liée en fait à, c'est ce qu'on appelle une inflation par les coûts, en fait, comme le prix de l'énergie a augmenté, quelle que soit la demande qu'on leur adresse, les entreprises voient leur prix augmenter en fait. Et comme leur prix de production augmente, elles essayent de réduire les coûts. Je vais très vite, mais ouais. Notamment par exemple en licenciant, donc ça crée du chômage. Voilà.
D'accord. Donc, avec une politique des bas salaires.
Ouais. Voilà. Et donc si on, derrière ça, on faisait une politique keynésienne, effectivement l'inflation augmentait sans résoudre le problème du chômage. Parce que de toute façon ça coûtait trop cher. Donc voilà, Keynes, la théorie keynésienne est un peu morte à ce moment-là. Et donc, on a vu mettre en place tout un tas de politiques de rigueur budgétaire, donc avec Thatcher, avec Reagan, en France avec Mitterrand, le tournant de la rigueur en 81, etc.
83.
Voilà. Aujourd'hui, alors, ce que nous dit Kelton, c'est qu'aujourd'hui, en fait, finalement, on a conservé un peu cette image du déficit comme une mauvaise chose. Et alors, elle parle essentiellement des États-Unis. Et de sa banque centrale qui est la Federal Reserve, la Fed en fait, la banque centrale américaine. La banque centrale américaine a conservé l'idée que pour lutter contre l'inflation, il faut un taux de chômage minimum. En gros, conserve l'idée qu'il y a un arbitrage entre chômage et inflation. Et pour la Fed, en fait, si on veut maintenir une inflation, et c'est son objectif principal à la Fed, hein, l'inflation, si on veut maintenir une inflation relativement basse, il faut nécessairement avoir un taux de chômage suffisamment élevé. Ce qui fait que la Fed, quand le taux de chômage diminue trop, il y a une alerte qui s'allume, alors attention, il va y avoir de l'inflation. Donc la Fed réagit de manière préventive à chaque fois à ça. Quand le niveau de chômage baisse, en fait, la Fed, donc la Banque Centrale Américaine, fait en sorte que le taux de chômage réaugmente.
Augmenter ses taux d'intérêt pour limiter l'investissement.
Et alors comment elle fait? Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, la Banque Centrale Américaine, elle a un outil principal qui est le taux d'intérêt. La Banque Centrale prête aux banques qu'on connaît tous, ce qu'on appelle les banques de second rang. Voilà.
Les banques, en gros, les banques auxquelles nous on s'adresse.
Les banques auxquelles nous on s'adresse pour effectuer des crédits. Donc c'est la banque centrale qui prête aux banques de second rang, elle ne leur prête pas de l'argent gratuitement. Elle leur prête un taux d'intérêt comme la banque nous prête à nous un taux d'intérêt. Donc si la banque centrale augmente le taux d'intérêt auxquelles elle prête aux banques de second rang, forcément, les banques de second rang vont augmenter le taux qu'elle pratique auprès de leur, des entreprises et des ménages. Bon, bah, si les taux d'intérêt augmentent, il y a moins de crédit, en fait. Les ménages consomment moins et les entreprises investissent également moins. Ce qui réduit la demande.
Et l'inflation.
Et ce qui réduit l'inflation.
Et le fait que l'inflation réduise les revenus des gens qui prêtent. Enfin, des institutions qui prêtent. Est-ce que c'est pris en compte dans ce truc-là? Si vous empruntez une certaine somme d'argent et que cette somme la valeur de cette somme d'argent diminue avec le temps du fait de l'inflation, de fait, c'est l'emprunteur qui gagne.
C'est l'emprunteur qui gagne.
Et, oui. pas celui
qui... S'il y a de l'inflation, c'est l'emprunteur qui gagne.
C'est ça.
Effectivement, parce que son pouvoir d'achat, en fait, il va rembourser la même somme, mais le pouvoir d'achat de cette somme est plus petit qu'avant. Donc, en fait, effectivement, l'emprunteur gagne.
Et donc là, il n'y a pas aussi un truc qui serait une espèce de politique générale, c'est-à-dire qui doit gagner au bout du compte? Ou pas du tout? Est-ce qu'elle aborde ce problème?
Si, elle l'aborde. En fait, elle explique à un moment le rôle de la fiscalité. Et le rôle de la fiscalité, ça peut être de réorienter les ressources, justement, de faire en sorte qu'on emprunte plus ou moins et de diriger l'épargne pour aller assez vite, quoi. Mais voilà, en fait, en gros, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans les politiques économiques et les politiques, sociales actuelles. C'est cette idée que l'inflation, c'est mauvais et le déficit aussi.
On va couper on va faire une première pause musicale avec un autre morceau choisi par José et on va laisser le temps à Moran de reprendre son souffle.
Génération anarchiste. Se réjouir de la lumière qu'on va voir venir au matin.
Slaughterhouse, we all voted red, we all lost our heads, so you ain't get the word of mouth. Just a visit in the oval when the reptilian's out. Dinner party at the devil's house, fear God was the panic blouse. Memories faded. They don't love me like they love you. Is it because I'm black or they want me black and blue? Another ignorant truth, imaginary news. Killed out here, hashtag. Condos and body bags run high on NASDAQ. We want our money back, printed on fresh cotton in a glass of blood from the Confederate fountain that run through the Blue Ridge Mountains. Stop at Mount Hood, nights ride up the mountain to scream manhood. To scream manhood. From sea to sea to shining sea, oh say, can you? Please put some more land upon the menu. And don't let death compliment you no matter how ugly you feel. Fix up, look sharp. They will sell you back your heart so you can load up guns for your art. Everything falls apart in North Philly rooftop view. Purple heart, scar tissue. Scream, we under your gun, hit and run under a ton, our mother's son. The sum of many with less than plenty before us, hitchhiked to a bus on bare feet. Concrete feet, jungle river, watch out for the killer, Jim Crow gorilla. It was a thriller, but now the thrill is gone. And we all sing along, humdrum, dazed out, dumb. Death to the dreams before they come, looping trauma. Looping trauma, stake the drama. All actors, benefactors, the evil mislead you to not even believe you. Escape the drama. Escape the drama. Hollywood snakes, piranhas, snake opera, rap Madonna, Great Britain, Americana, before and behind you, time to remind you. Escape the drama. Escape the drama. But the myth hold weight like. The myth hold weight like. All the money from cotton, right? Like all the money from cotton, right? The myth hold weight like. The myth hold.
stoplight where I read my rights and I read my wrongs. Guess I'm not going home.
Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. Et c'est Jeudi Noir qui se poursuit pour sa seconde partie, avec donc Morane qui nous propose l'explication, la présentation d'un livre de Stephanie Kelton, une économiste et conseillère politique américaine, qui s'intitule donc livre qui s'intitule Le mythe du déficit, la théorie moderne de la monnaie et la naissance de l'économie du peuple, aux éditions Les liens qui libèrent. Là, vous venez d'entendre un morceau de Moore Mothers qui a été sélectionné par José Le Stéphanois et qui s'intitulait, je vais vous le dire en français, le mythe a du poids. Le mythe nous pèse sur nos épaules. Donc là, dans la première partie, Morane nous a présenté le contexte de, en gros, des théories économiques, c'est-à-dire pour aller très très vite et pour simplifier pour nous autres béotiens le conflit entre, mettons, les keynésiens qui pensent que le déficit de l'État est un outil politique et économique utile, et ceux qui voudraient le limiter au maximum en pensant que c'est une erreur sans doute à la fois économique et politique. Et donc là, on va peut-être rentrer dans la présentation du bouquin lui-même, puisque tu nous disais hors antenne que Stephanie Kelton et la théorie moderne de la monnaie, en quelque sorte, va au-delà de Keynes. C'est plus tout à fait des keynésiens. Alors, oui, dans quel ordre tu veux présenter les choses, Nino?
Alors oui, juste revenir sur un dernier point de contexte. Mmh. Pourquoi c'est si répandu, peut-être? C'est aussi que... il y a cette idée que qui est donc répandue chez les politiques, mais aussi chez nous autres, en fait, chez les citoyens, que le budget du ménage de l'État se gère comme un budget du ménage. Et donc quand on nous dit il faut allonger l'âge de départ à la retraite parce qu'on n'a pas assez d'argent pour financer la retraite, c'est mathématique, voilà, et bien ça parle à tout le monde, en fait. Sauf que Stephanie Kelton va nous dire, la théorie moderne de la monnaie nous dit, non, l'État n'est pas un ménage. Et donc, ce qui est valable pour l'État, pour le ménage, pardon, de ne pas s'endetter trop, etc., n'est pas du tout valable pour l'État. Donc, en fait, il y a quelques messages clés, en fait, que nous fait passer la théorie moderne de la monnaie. Le premier, c'est que le déficit et, a fortiori, la dette ne doivent pas déterminer nos politiques économique ni nos politiques publiques, voilà, généralement. La deuxième chose, c'est que, en fait, par conséquent, les politiques qu'on mène, c'est pas une question technique, c'est une question de choix politique. Voilà, en fait, ça c'est un point important, je pense, c'est que non, c'est pas technique de choisir où on veut mettre l'argent, etc. C'est un choix politique, ça replace vraiment ça comme ça. Et effectivement, là, comme Keynes, qu'en fait, parfois le déficit peut même être un outil, en fait, mais que c'est pas quelque chose qui doit, encore une fois, limiter les politiques qu'on souhaite mener. Il y a d'autres limites, il n'est pas question de faire n'importe quoi, etc. C'est pas open bar, mais en tout cas, le déficit n'est pas une limite réelle, c'est une limite construite, en fait. Voilà, c'est un peu ça l'idée.
J'imagine que ça pourrait éventuellement renvoyer à des idées du type que l'économie n'est pas une espèce de science de la nature qui décrirait des lois inexorables qu'on est obligé de suivre, mais que là-dedans, il y a aussi une part, justement, de politique, c'est-à-dire où est-ce qu'on choisit d'allouer les biens qui sont disponibles dans la société.
En fait, c'est exactement ça, et ça, après, elle le démontre très bien dans son livre. D'ailleurs, le livre est très bien écrit, il est très accessible. Nous, là, on va en parler assez rapidement, mais... les mythes sont vraiment évoqués un à un, démontés un à un. C'est vraiment, c'est un livre qui est très accessible, en fait. Voilà. Et oui, ça, elle le montre très bien. Et donc, l'idée qu'elle va démonter, c'est que, en fait, avant de dépenser, l'État devrait avoir des ressources, notamment qui viendraient des impôts, par exemple, ou de l'épargne des ménages. Et là où c'est copernicien, c'est qu'elle va renverser complètement ce lien. C'est pas parce que l'État a prélevé des impôts qu'il a des ressources pour dépenser. C'est au contraire parce qu'il a dépensé et qu'il a investi, qu'il va y avoir la monnaie mise en circulation, qu'ensuite les ménages et les entreprises pourront dépenser.
C'est pas une espèce de débat de foot-pool, là ?
Alors, c'est vrai, c'est un débat qui est un peu effectivement technique, etc. Mais finalement, ça a des conséquences économiques absolument réelles, quoi.
Non, c'est-à-dire que ici, ce que je voulais dire, c'était du type des débats entre des théoriciens économistes qui vont dire d'abord t'as l'œuf et puis l'autre non, d'abord t'as la poule.
Ouais, si, c'est ça. Ah, si, c'est mais ça. C'est fondamental.
D'accord.
En fait.
Il n'y a pas un Darwin qui arrive pour dire les deux ont tort ?
Non. Non, bah parce qu'il y a un moment, effectivement, la question des dépenses pose la question des financements. Et voilà, non, là, c'est vraiment, effectivement, cette relation-là, est-ce qu'on dépense avant
après,
et...
après, la grosse question, c'est qu'en fait, c'est la planche à billets, peut-être.
Voilà. Bon, en fait, et elle, à l'inverse, ça. Enfin, elle, c'est pas elle, mais elle, c'est une c'est représentante de la théorie monétaire moderne. Et effectivement, elle met en avant ça. C'est parce que l'État dépense qu'il y a de l'épargne et qu'il y a de la monnaie en circulation. Et l'idée force peut-être de la théorie monétaire moderne, c'est en fait on s'imagine que les impôts payent les dépenses de l'État, et ça ce serait un pur fantasme. En réalité, c'est l'État qui est émetteur et fabricant, pour aller vite, de la monnaie, et non le contribuable qui finance les dépenses publiques. Donc oui, effectivement, c'est parce qu'il y a une planche à billets que l'État peut faire tourner qu'il y a de la dépense publique. Voilà. Ça, c'est vraiment l'idée force. Et en partant de là, eh bien, elle déconstruit plein de mythes. Et l'un des premiers mythes qu'elle va déconstruire, c'est que l'État doit tenir son budget comme une famille. Donc voilà, l'État serait trop dépensier, irresponsable dès qu'il y a un déficit, etc. Ça s'appuie aussi sur la vieille idée que, en fait, on serait passé du troc à la monnaie, etc., qui a été balayée donc, par des anthropologues comme, comme Graeber, par exemple.
Et oui, voilà, l'idée étant, c'est un vieux truc, ça, mais l'idée étant que le troc, en fait, on l'observe que dans des sociétés qui ont déjà connu la monnaie.
Oui, bien sûr.
Et dans lesquelles, en gros, le système monétaire s'est effondré, mais les gens ont une vague idée de la valeur théorique des choses, et à partir de là, peuvent troquer. Ouais. Ou alors, aussi, l'observer entre des sociétés qui étaient quasiment ennemies. Mais dans une société où les choses fonctionnent, c'est pas du troc, c'est une forme de crédit.
Oui.
Presque perpétuel. Je te file un truc parce que je sais où t'habites, je sais qui t'es et je sais que dans 6 mois, je pourrais t'emprunter un autre truc.
Voilà. Et ben voilà. En fait, ça fonctionne exactement comme ça. Pour aller très vite, c'est comme ça que fonctionne le système de la dette, même au niveau des États. Et bon, il y a des métaphores dans le livre qui expliquent très bien ce qu'elle veut dire par là. Mais pour aller assez vite, on peut se poser la question de... si l'État devait financer absolument ses dépenses à chaque fois, les premières dépenses, comment est-ce qu'à l'origine on a pu créer ces sources de revenus qui ont pu permettre d'avoir des recettes pour l'État, etc. Ben non, en fait, il a d'abord fallu dépenser, construire une force de travail, construire une éducation, etc. avant qu'il puisse y avoir de la monnaie tout simplement générée par l'État. Et l'État, en fait, voilà, un truc qui est au cœur de cette théorie-là, c'est de distinguer les utilisateurs de la monnaie, que sont les entreprises et les ménages, de l'émetteur, qui est l'État. Il y a l'État, un monopole sur l'émission de la monnaie. Il n'y a que lui comme émetteur. Donc lui peut l'émettre. A priori, autant qu'il veut, on va parler des limites après, mais voilà. Et donc, en fait, on peut se poser la question, dans ce cas-là, pourquoi il y a une fiscalité ? Dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on prélève des impôts si l'État n'en a pas besoin pour se financer ? Bon. Alors, ce que nous explique Kelton, c'est qu'en fait, la fiscalité existe... en fait, afin de créer une demande pour la monnaie d'État. Pas pour financer les dépenses, mais pour créer une demande de la monnaie d'État. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de créer une demande de la monnaie d'État ? Eh bien, en fait, parce que l'État a besoin de s'approvisionner en force de travail. Je vais caricaturer un petit peu, mais en fait, si on crée le besoin de payer des impôts chez les individus, alors forcément, ils vont devoir travailler, gagner de la monnaie pour pouvoir payer ces impôts. En gros, c'est ça l'idée. Voilà. C'est une des idées forces de la théorie monétaire moderne. Donc voilà, l'une des premières raisons, c'est que la monnaie, les impôts, la fiscalité permet à l'État de s'approvisionner en force de travail. C'est la première chose. La deuxième raison pour laquelle la fiscalité existe, c'est pour gérer l'inflation. Parce qu'une limite à la création monétaire comme ça de l'État, ça va être effectivement l'inflation. La troisième chose, pourquoi la fiscalité existe, c'est pour éventuellement modifier la répartition des revenus, hein, c'est le principe de l'impôt progressif. Et quatrième justification de la fiscalité, c'est ce qu'on appelle le nudge, en fait. C'est pour inciter ou désinciter certains comportements. Des subventions qui vont inciter certains comportements, voilà, l'achat de panneaux photovoltaïques, par exemple, et qui vont désinciter d'autres comportements en les taxant. Voilà. Donc voilà, la fiscalité existe pour ces raisons-là, mais l'idée forte, c'est que, avant tout, c'est pour permettre à l'État de s'approvisionner en force de travail.
D'accord.
Voilà. Donc voilà, elle détruit ce premier mythe, disant que l'État doit tenir son budget comme une famille. Ben non, puisque l'État, il est émetteur de la monnaie, il n'a aucune nécessité, en fait, de financer ses dépenses. Voilà. Le financement de ses dépenses par l'impôt, ça renvoie aux besoins qu'elle a évoqué là, les quatre points sur lesquels que je viens de mentionner.
Alors peut-être que je t'oblige à avancer trop vite, tu me dis, et on peut voir ça plus tard, mais là quand même on est sur le présupposé d'une espèce d'état autarcique.
Oui, c'est-à-dire qu'on ne prend pas encore en compte les échanges
avec les autres états. Si tu veux, on peut voir plus tard, mais...
Non, on peut en parler maintenant, on peut en parler maintenant si tu veux. Alors, il y a tout un chapitre dans le livre sur le commerce international, sur l'impact des échanges internationaux, sur la monnaie, etc. Bon, je vais aller un peu vite là-dessus parce que là, pour le coup, ça s'appuie sur des points assez un peu techniques. Mais l'idée, c'est de dire que même si on prend par exemple les échanges Chine-États-Unis de biens et services, les comptes qui vont mesurer notamment le déficit, sont créés à partir de ce qu'on appelle une double écriture. C'est-à-dire, le déficit de l'un est nécessairement l'excédent de l'autre. Tout ce que l'État dépense va forcément arriver quelque part. Bon, en gros, quand la Chine vend des biens ou des services aux États-Unis, les États-Unis vont payer la Chine en dollars. Bon. Et l'idée de Kelton, c'est de dire que finalement, ben, c'est pas trop un problème. Parce que, en fait, ça implique quoi ? Ça implique que la Chine va détenir des dollars américains, avec un taux d'intérêt, certes. Mais voilà. Et finalement, on revient toujours, pour la théorie moderne de la monnaie, au même problème. En fait, cette dette-là, elle peut être remboursée en faisant tourner la planche à billets. Voilà. Donc, bon, après, évidemment, il y a plein d'enjeux qui sont soulevés et que nous, on aura du mal à soulever là en une heure, notamment la question de la valeur de la monnaie, etc. Mais elle l'explique très bien dans son livre très dense.
Mille déficits voilà. De Stéphanie Kelton aux éditions Les Liens qui Libèrent, que nous présente Morane.
Exactement.
Et qui, elle nous l'a dit, était tout à fait lisible.
Tout à fait lisible.
Même si vous n'êtes pas. Mais ce n'est pas une formation en économie.
Oui, complètement. Complètement. Et en fait, bon, bah, ce livre, il est structuré par. Il est structuré par mythes. Et on abordera peut-être l'un des derniers mythes fondateurs sur lequel s'appuie la théorie moderne de la monnaie.
Après une pause musicale.
Tu te donnes, tu te donnes.
que serait Radio Liberté, sans des petites erreurs à la technique. C'est un spécialiste qui vous parle, un spécialiste des erreurs de la technique. Donc vous écoutez bien Radio Liberté 89.4. Et Jean-Mathias avait lancé un peu par erreur, parce qu'on était pris dans une discussion passionnée sur les politiques économiques menées en France et en Europe. Et donc avant, vous avez entendu un morceau de Raf. Économiste. Et là, on revient donc à la troisième partie donc de notre émission sur Jeudi Noir, donc qui donc un livre de, on vous présente un livre de Stéphanie Kelton, Le Mythe du Déficit, la théorie moderne de la monnaie et la naissance de l'économie du peuple, aux éditions Les Liens qui Libèrent. Et donc c'est Morane qui nous présente le bouquin. Et là, avant la pause, tu nous avais annoncé que tu allais parler des mythes, justement. Voilà, en quelque sorte, qu'est-ce qui est mythique là-dedans?
Oui, bah en fait le livre est structuré comme ça, hein. Il y a 8 chapitres et les 6 premiers c'est sur les mythes qu'elle déconstruit un à un. Donc le premier mythe qu'elle met en avant, peut-être qui est fondamental, c'est l'idée que l'État doit gérer son budget comme un ménage. Bon, ça c'est pas vrai parce que l'État est émetteur de monnaie et qui peut, en gros, l'argent magique existe, effectivement, il peut créer autant de monnaie qu'il veut. Il y a des limites à ça. Est-ce qu'on peut faire ce qu'on veut pour autant? Non. Le cadre dans lequel s'applique cette pensée-là suppose des hypothèses en fait précises. Un, il faut que l'État soit souverain monétairement. Être souverain monétairement, ça veut dire deux choses. Ça veut dire être en capacité d'émettre sa propre monnaie et de contrôler son émission avec les banques centrales. Et deuxième chose, c'est de ne pas être endetté dans une autre monnaie que la sienne. Donc de ne pas être endetté dans une devise étrangère. Voilà, c'est ça la souveraineté monétaire. Donc ça fonctionne dans ce cadre-là, tout ce qu'elle dit. Encore une fois, donc ça c'est très restrictif, ça s'applique bien aux États-Unis, ça s'applique moins bien à la zone euro ou à l'Union européenne. Effectivement, on y reviendra peut-être un petit peu après.
Oui, voilà. Oui, parce que là, c'est quelque chose qui a été fait à partir peut-être de l'idéologie économique allemande, qui voulait autonomiser les banques centrales de l'influence des États.
Oui, alors en Europe, c'est ça, effectivement. Mmh. En fait, la réserve fédérale américaine, la Fed, est très à cheval sur la cible d'inflation, mais elle a quand même un deuxième mandat, un deuxième objectif qui est l'emploi, pour aller très vite, la croissance en fait. Alors qu'en Europe, on est beaucoup plus strict là-dessus, en fait. La cible, c'est l'inflation et point final. Depuis la crise 2007-2008, on se dit que ce serait peut-être bien d'avoir l'objectif de croissance, mais c'est pas acté dans les statuts de la Banque Centrale Européenne. Voilà. La Fed, elle, a ce mandat-là. Voilà le premier mythe de l'État égal ménage, ça fonctionne pas, c'est pour ça qu'en fait on se plante là-dessus, sur la vision qu'on a du déficit. Le deuxième mythe, c'est les déficits prouvent qu'on dépense trop. Non. Pour Stéphanie Kelton, c'est pas parce qu'on est en déficit qu'on dépense trop. Peut-être qu'on peut être en déficit et endetté et même dépenser pas encore assez. Parce que ça serait quoi dépenser trop pour elle? On dépense trop quand ces dépenses génèrent trop d'inflation. Voilà, la hausse des prix. Quand est-ce que les dépenses génèrent trop d'inflation? Quand on peut pas y répondre. Quand on n'a pas assez de moyens, de capacité de production dans un pays pour répondre à ces demandes, ce qui va se passer, ça va être une hausse trop forte, non souhaitable des prix. Parce qu'en réalité, les économistes, c'est assez unanime, estiment qu'il existe un bon niveau d'inflation. Par exemple, l'inflation cible, c'est 2%. À la Fed, comme à la Banque Centrale Européenne, on estime que c'est bon pour l'économie, une inflation annuelle de 2%. Ça, voilà. C'est quand il y a trop d'inflation, qu'on dépasse trop fortement ces 2%, qu'on va estimer qu'elle est mauvaise. Bon, bah quand on va dépasser trop fortement 2% d'inflation, c'est que en fait on dépense trop par rapport à ce que l'économie peut produire. Et dans ce cas-là, les dépenses de l'État deviennent superflues, inutiles, dans le sens où ça ne va pas relancer la croissance, puisqu'on est déjà au max de ce qu'on peut produire. Donc voilà, pour Stéphanie Kelton, le déficit.
Qu'est-ce qu'il en est là-dedans des dépenses non productives? Du type la santé, Des dépenses qui vont pas forcément créer de problèmes de surproduction, les dépenses d'armement, les dépenses de santé, tout un tas de dépenses qui produisent pas de biens à consommer et
qui produisent des services quand même.
Qui produisent des services.
Qui sont, ouais. Alors c'est pas nécessairement des dépenses non productives parce que d'accord. De toute façon c'est des dépenses qui vont générer quand même des rentrées d'argent.
Okay.
Surtout qu'on est aux d'accord. États-Unis, là on n'est pas en France, donc c'est pas tout à fait le même contexte, même sur la santé, l'éducation, etc. Mmh. Donc ça, elle va en parler et justement elle va nous dire plutôt le déficit qu'il faut regarder, c'est les déficits de ces dépenses-là.
D'accord.
La pénurie qu'on a d'un point de vue médical aux États-Unis, la pénurie qu'on a d'un point de vue de l'éducation, les problèmes d'inégalité et la pénurie d'un point de vue démocratique aussi, en fait, un déficit de démocratie.
Okay.
Donc tout ça, c'est des déficits qui ne sont pas monétaires, mais qui sont justement en termes réels. Et pour elle, ce qui importe, ce sont des déficits réels, en fait. La théorie de la monnaie comme ça, moderne, pardon, de la monnaie, s'appuie en fait sur une vision en disant. Tout ce qui est monétaire, finalement, c'est secondaire. Ce qui est essentiel, c'est ce qui est réel. Donc, ces déficits-là, climatiques, démocratiques, éducationnels, etc., etc. Donc, voilà, c'est pas parce qu'on est en déficit que c'est nécessairement mauvais. Et surtout, c'est pas parce qu'on est en déficit qu'on dépense trop. Ce qu'il faut regarder, c'est l'inflation. Mmh. À partir du moment où l'inflation devient trop forte, oui, c'est que ça devient inutile et contre-productif de s'endetter. Voilà. Je résume très rapidement, mais c'est ça. En gros, le déficit est bien tant qu'on n'est pas en plein emploi. Il y a un dernier mythe qui est important, il y en a d'autres, mais c'est l'idée que la dette publique crée un fardeau. Alors ça, on l'entend tout le temps. Oui, mais la dette qu'on contracte actuellement, c'est les générations futures qui vont la porter. Bon, bah ça, elle montre que en fait, il y a une horloge énorme à New York en disant, bah voilà, la dette des États-Unis c'est ça, et la dette par habitant, du coup, c'est ça. Vous devez tous 42 000 euros. Vous devez tous 42 000 euros. Bon, elle dit que ça, c'est un non-sens, parce qu'effectivement, c'est des jeux d'inscription monétaire. Et cette dette-là, elle a permis notamment de construire des institutions, enfin des structures, pardon, des infrastructures. Et qu'en fait, quand on raisonne comme ça, on réalise en dette monétaire, mais pas en dette réelle. Bon, pour aller très vite. Ces dépenses d'argent permettent de générer un actif, des biens qu'on possède, par exemple, je sais pas, des lycées, des hôpitaux, etc., qui ont une valeur, en fait. Donc on ne peut pas raisonner qu'à partir de la dette et du déficit.
Oui, c'est-à-dire qu'une fois que tu as construit, par exemple, je sais pas moi, une autoroute, ou comme tu dis, un hôpital ou une école, de fait, ça a une valeur, ça produit des choses, et donc ça peut être considéré comme un actif pour le pays.
On pourrait retrancher la valeur de cet actif à la dette et voir ce qu'il en est, en fait, plutôt que de se concentrer uniquement sur la dette. Voilà. Et elle met en avant autre chose. C'est que, alors là, c'est assez implacable. D'un point de vue historique, chaque fois que l'État a réduit substantiellement la dette publique, l'économie a sombré dans la dépression. Voilà. Donc, est-ce que c'est mauvais la dette, le déficit ? Bah, en fait, historiquement, non. Voilà. Donc, on le voit très bien, elle a un tableau comme ça. Par exemple, si on prend, je vais peut-être prendre le plus grand, entre 1823 et 1836, on a réduit la dette de 100%. En gros, les États-Unis ont remboursé leurs dettes. La dépression a commencé un an plus tard, en 1837. Et là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 périodes où c'est systématiquement comme ça. 1920-1930, pour prendre la dernière, le pourcentage de réduction de la dette est de 36%. On a réduit la dette de 36%. Et la dépression a commencé en 1929. Voilà. Donc, en fait, d'un point de vue historique, chaque fois que l'État réduit la dette, ça crée de la dépression. Donc là, on retombe un peu sur ce qu'on disait avec Keynes, etc. Mais donc la dette publique, est-ce qu'elle crée un fardeau ? Bah, visiblement, non. C'est peut-être plutôt sa réduction qui crée un fardeau en diminuant la consommation, la demande, parce qu'on augmente les impôts. Et donc en augmentant le chômage, etc. En réduisant l'activité économique, tout simplement.
Ouais.
Donc finalement, la fiscalité, encore une fois, n'est pas nécessairement le préalable aux dépenses et le préalable à une économie en bonne santé. En tout cas, une économie qui fonctionne. Voilà.
Alors, qu'est-ce qui explique la... Elle essaie d'expliquer un peu la persistance de ce mythe ?
Alors, si, elle l'explique, c'est ce que je disais un peu au début. En fait, les institutions sont fixées des règles qui fonctionnent comme ça, et donc aujourd'hui, il y a une certaine inertie institutionnelle à ce niveau-là. Et puis, il y a toujours cette croyance-là, en fait, cette assimilation entre utilisateur de la monnaie, les ménages, et émetteur de la monnaie, l'État. Ça persiste largement.
Donc c'est une espèce d'erreur qui...
C'est inscrit dans les conventions institutionnelles, s'inscrit énormément dans le discours médiatique. Mmh. Et voilà. Alors après, elle évoque aussi d'autres enjeux. Parce qu'effectivement, cette idée-là, elle profite aussi aux individus les plus riches qui peuvent effectivement acheter de la dette et qui n'ont pas intérêt à ce que la... Enfin, c'est pas... Voilà. Il y a un intérêt quand même, en fait. Ouais. Il y a un intérêt aussi à la dette. L'intérêt à la dette, je les ai mentionnés plus tôt, c'est aussi une répartition des revenus, en fait. Et justement, à un moment, elle mentionne dans son livre, elle dit, au Congrès, parce qu'elle était conseillère au Congrès économique, j'ai posé des questions. La première, est-ce que si vous aviez une baguette magique, vous souhaiteriez supprimer la dette? L'ensemble de répondre oui. Deuxième question, est-ce que vous seriez d'accord pour supprimer tous les bons du trésor américain? Voilà. Tout le monde de répondre, non. Et donc en fait finalement il y a un espèce de hiatus dans la pensée entre, on oublie d'assimiler le fait que la dette c'est financé par des bons et l'un ne va pas sans l'autre. Donc on ne peut pas réduire la dette ou la supprimer sans supprimer les rémunérations pour ceux qui la possèdent. Et donc il y a quand même un intérêt, Mais bon, c'est plutôt de l'ordre de l'inertie des institutions et des modes de pensée qu'elle explique ça, elle, surtout. Voilà. Puis un peu le contexte économique, etc. Parce que, c'est une analyse, moi je ne l'ai pas trop développée là, mais qui est très appuyée sur ce qui s'est passé économiquement à travers l'histoire. Donc la pandémie Covid, qu'est-ce qui s'est passé? La crise subprime, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle politique on a menée? Pourquoi ça a échoué? Etc. Bon, maintenant, la question qui se pose, c'est du coup, est-ce qu'on fait ce qu'on veut, en fait? Est-ce qu'on peut faire tourner la planche à billets indéfiniment, etc.? Oui. Non.
Alors là, les Allemands de 1923 vont sortir de leur tombe et vont te dire « Mais non, surtout pas !»
Pas une deuxième fois.
Voilà.
Mais
un
non.
Milliard de marques pour acheter un bout de pain, mais ça va pas.
Mais non, on fait pas ce qu'on veut, parce que ça s'applique que pour les pays qui ont un soutien monétaire. L'inflation, il faut pas qu'elle soit trop importante non plus. Elle a des conséquences réelles. L'inflation, elle réduit le pouvoir d'achat. Avec le commerce international, ça peut aussi créer une baisse vraiment du pouvoir d'achat du pays dans son entièreté, etc. Donc non, on ne peut pas faire ce qu'on veut, mais sous réserve que l'État soit en monopole de sa politique monétaire et que l'économie d'un État ne soit pas au plein emploi, il n'y a pas de raison de faire en sorte que le déficit et la dette soient un aiguillon de nos choix économiques et politiques. En fait, ça remet vraiment le choix politique au cœur du débat et non pas la question du déficit au cœur du débat. Voilà. Alors, justement, elle a toute une partie du livre où elle met en avant les déficits qui comptent. Et pour elle, les choix économiques doivent se focaliser sur la résorption de certains déficits. Donc le déficit climatique, le déficit écologique, le déficit démocratique. En fait, là, je vais aller assez vite, mais elle met en avant le fait que l'hystérie du déficit, en fait, de la dette, empêche de mener des politiques efficaces qui permettraient de réduire, d'améliorer, par exemple, aux États-Unis, le système d'éducation, le système de santé, et que, en fait, notamment avec cela, éducation, santé, crée un déficit d'épargne, en fait.
Ouais.
Un déficit de revenus, et au final, un déficit d'épargne. Et ce déficit d'épargne creuse le déficit originel si dangereux. Donc, même si on admettait que le déficit est une question importante, etc., les politiques qui visent à réduire le déficit sont contre-productives.
D'accord.
De ce point de vue-là.
Ouais.
Voilà. Donc, les conséquences de ça...
En termes de politique, il en reste peu de temps, mais je me disais... Malgré tout, tu vois, quand tu as des néolibéraux type Thatcher, Reagan ou Macron qui arrivent au pouvoir, en règle générale, ce qu'ils vont faire dans les premières années de leur mandat, c'est de creuser les déficits à fond.
Oui.
Tout en, après, dans un deuxième temps, en disant « Ah là là, on a trop creusé les déficits, il faut arrêter de donner de l'argent aux pauvres. »
Mais comme ce qui se passe, comme ce qui s'est passé sous Obama aussi pendant la crise
c'est-à-dire de subprime. C'est-à-dire que le déficit aussi, c'est un outil pour toute une partie de la classe économique qui prétend être contre le déficit. Est-ce qu'elle analyse, un peu politique
ça,
de ça
elle analyse, oui, elle analyse complètement. Alors, elle analyse moins Thatcher et Reagan que... Obama a créé ce prime et là avec la pandémie du Covid en fait. Covid, l'argent magique n'existe pas. Finalement
tu as un
si.
Hop, il y en a plein.
Donc c'est ce qu'elle dit. Elle dit on peut très bien trouver l'argent et faire tourner la planche à billets quand on le veut en fait pour relancer l'économie. Et bon, sans rentrer dans le détail, la politique monétaire de la Banque centrale américaine, la Fed, a fait tourner la planche à billets à fond pendant la pandémie Covid dans l'objectif de faire quoi ? De relancer l'économie et surtout de relancer l'inflation en fait. Donc oui, il n'y a pas de problème a priori à faire tourner la planche à billets tant qu'on a pas de surinflation. Là, le risque à l'époque, c'était plutôt surtout la désinflation, une inflation trop basse, qui est aussi dramatique. Mais voilà, et dans ce cas-là, on a mis tous les moyens. Donc, quelque part, ça va quand même vraiment dans le sens de la théorie monétaire moderne, ça. On peut faire tourner la planche à billets sans conséquences dramatiques à partir du moment où on en a besoin, tout simplement, à partir du moment où l'économie est en sous-capacité. Voilà, donc là, on est vraiment sur une vision un peu d'une finance qui serait fonctionnelle, qui prendrait plutôt en compte les conséquences réelles sur l'économie réelle, en fait, plutôt que sur les conséquences monétaires. Et enfin, bon, il y a le cas de l'Union européenne, c'est quelque chose qui s'applique moins à l'Union européenne, parce que bah, nous, les pays de l'Union européenne, ont délégué leur politique monétaire à la Banque Centrale Européenne. Néanmoins, est-ce que pour nous, ça veut dire que le déficit est à réduire tout le temps et en tout lieu ? Bon, sans aller jusqu'à la théorie moderne de la monnaie qui est présentée dans ce livre-là, eh bien non, on voit que le déficit peut quand même être aussi un outil utile, encore une fois, tant qu'il ne crée pas de surinflation. Voilà.
D'accord, donc c'était un livre, t'es bon ? T'as rien à ajouter ? Donc c'est ton dernier mot.
Lisez le livre,
voilà. Donc un bouquin de Stéphanie Kelton, « Le mythe du déficit ». La théorie moderne de la monnaie et la naissance de l'économie du peuple. Donc, au lien qui libère, c'est un bouquin de 2022. Donc, comme d'habitude, on est pile dans l'actualité. et donc, voilà, on va passer un dernier morceau. Et en fait, Jean-Mathias n'avait pas fait d'erreur la fois précédente. José avait juste mis deux morceaux à la suite. Et, comme on est des demeurés, on n'avait pas lu son mail comme il fallait. Voilà. Donc, on va passer sur un dernier morceau. Et ensuite, on passera à l'antenne à l'émission qui suit. We'll be right back.
No.